J'ai jamais compris pourquoi il voulait partir. Ça ne plaisait pas d'être sur la même barque que lui. Mais il avait payé. Il partit.
Araga, coproduction franco-algérienne, est le film de Merzak Alouache et raconte l'histoire des Araga, ces hommes et femmes qui partent de l'Algérie sur de petites embarcations pour rejoindre l'Espagne, point d'entrée dans l'Europe. Araga veut dire brûleur, car ces clandestins doivent brûler leurs papiers. Le film nous montre que ce sont essentiellement des jeunes qui partent, qu'ils appartiennent à toutes les couches sociales et que cette traversée comporte des risques pas toujours payants. Nous avons rencontré Merzak Alouache à Montpellier lors d'une avant-première.
Je m'appelle Rachid. Ce n'est pas mes pieds que vous voyez là. C'est les pieds de Omar, mon meilleur copain, qui a décidé de nous quitter. Comme ça. Sans le prévenir. Ce jour-là, c'était pour nous un jour de malheur.
Bonjour Merzak Alouache. Alors, on vous connaît, réalisateur de comédie, hein, avec Chouchou notamment, Salut Cousin. Là, Araga, c'est complètement différent. Ça commence même très mal. Un des premiers plans du film, c'est un pendu. Et après, voilà, il est question de ces gens qui quittent l'Algérie sur une barque pour aller en Espagne. Alors, bien, pourquoi vous avez pris ce sujet et renoncé finalement à la comédie ?
Ben écoutez, depuis mon premier film, Margaret Latou, je navigue un peu entre la comédie et le drame, un peu au gré des périodes. Mes films sont des films qui ne sont pas réfléchis bien avant leur tournage, bien avant leur préparation. C'est en fonction un peu de la situation. Donc, effectivement, j'ai tourné des comédies, mais parfois la situation m'interpelle, comme on dit, pour aller vers quelque chose de plus dur. Et là, actuellement, je suis vraiment très surpris par ce qui se passe en Algérie. Et, c'est une situation qui a commencé au Maroc. Il y a ça en Tunisie, en Libye, l'Afrique noire, etc., les Kurdes. Enfin, ces déplacements de population, ces déplacements sur des routes nouvelles, sur des routes secrètes, qui sont des traversées vraiment suicidaires, par exemple de la Méditerranée. Donc j'ai été intéressé par ce sujet. On en parle beaucoup en Algérie. Et j'ai eu envie de tourner un film. C'était pas évident, mais j'ai tourné ce film. J'ai tourné une fiction, quoi.
On peut peut-être rappeler les chiffres. Je suppose que vous les connaissez. Hein. Enfin, lors de ces traversées, qui sont peut-être quotidiennes, je ne sais pas. Ouais. Donc, il y a forcément des embarcations qui chavirent, des gens qui se perdent en mer.
Les chiffres, moi, j'ai mis quelques chiffres dans mon film pour donner une idée un peu de l'ampleur des dégâts. Mais les chiffres, sont des chiffres qui ne sont pas précis parce que ce sont des passages clandestins. Donc, les morts sont des morts clandestines. On ne sait pas très bien combien il y a de gens qui disparaissent en Méditerranée. On sait que les morgues espagnoles sont quand même surchargées de cadavres. Et dans la presse algérienne, il n'y a pas longtemps, on parlait de 600 morts qui sont dans les morgues espagnoles. Et les Espagnols demandaient aux autorités algériennes de venir identifier ces gens, quoi, et de voir si c'est des Algériens, les rapatrier les dépouilles, etc. Dernièrement, le ministère des Affaires étrangères algérien a parlé de pratiquement de 1200 expulsions de Haraga d'Espagne par an. Donc voilà, c'est beaucoup. Alors combien il y a de disparus, on n'en sait rien. Les chiffres que j'ai mis à la fin de mon film sont des chiffres qui sont extraits de rapports de la CIMAD. Hein, donc la CIMAD a des chiffres un peu. En Algérie, il y a aussi des associations de parents de Haraga disparus, donc qui se sont créés, qui cherchent à avoir des infos sur leurs enfants.
Quand on est descendu attendre la barque, j'ai le cœur qui s'est serré. Et je savais que le patibuleur allait nous pourrir la vie. Ce qui devait être un jour de bonheur allait se transformer en cauchemar.
Votre film est absolument fictionnel, hein. C'est absolument pas un documentaire. Pourtant, vous avez fait des documentaires. Donc, pourquoi vous avez choisi plutôt la fiction que le documentaire pour ce qu'on pourrait appeler quand même un fait divers ?
Bah, écoutez, parce que quand j'ai commencé à travailler, moi j'habite en France, mais je vais souvent en Algérie, et donc j'ai commencé à lire des choses sur ce sujet, j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai vu un peu le travail qui était fait par des chercheurs, des sociologues, etc. J'ai vu aussi très peu de documentaires sur ce sujet, parce que c'est très difficile de tourner des documentaires sur des choses aussi secrètes, quoi. Donc j'ai vu tout de suite que ça allait être vraiment très, très dur pour moi. Je suis pas un spécialiste aussi du documentaire, donc peut-être qu'en travaillant sur une fiction, en montant une histoire à partir de tout ce que j'allais apprendre, ben, ça donnerait quelque chose aussi qui pourrait être vu par les gens et qui ferait comprendre un peu ce phénomène. Et donc là, je me retrouve avec une fiction qui est pas une fiction où j'ai mis des fioritures cinématographiques. C'est assez dur, c'est simple, hein, je travaille sur la traversée en elle-même et j'essaie de montrer des personnages qui sont des êtres humains. J'essaie de les montrer dans leurs émotions, dans leur colère, etc. Pour dire que surtout par rapport au message que je veux adresser à des spectateurs européens, souvent vous voyez ces gens à travers les news qui sont diffusés parce qu'il y a eu un échouage, parce qu'on a arrêté des gens, et c'est très rapide, ensuite on ne voit plus ces gens. Et là donc je les montre pendant une heure et demie dans leur préparation et dans leur traversée.
Dans le fond de mon cœur, je priais pour que le moteur ne démarre pas. Et en même temps, j'avais envie qu'il démarre. Des fois, dans la tête, il y a tout qui se mélange. Pour le reste, c'est Dieu qui décide.
Il y a deux temps, hein, quand même, dans votre film. Il y a tout ce qui se passe à Mostaganem, parce que le départ se fait de Mostaganem, donc sur la côte algérienne. Là, on fait connaissance avec un certain nombre de personnages. Vous en suivez certains plus précisément que d'autres. Notamment, il y a ce couple, parce qu'il va y avoir une femme dans cette embarcation. Il y a aussi un religieux, enfin un fervent, un jeune fervent. Et puis après, il y a ceux dont on entend très peu parler, c'est-à-dire ceux qui viennent d'encore plus loin, qui viennent du désert et qui sont à peine tolérés. S'ils sont tolérés, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Mais en même temps, voilà, enfin, si ça pouvait se passer simplement entre Algériens, ce serait bien mieux. Il y a comme ça qui est présent. Si vous avez ce regard sur l'Algérie moderne, c'est-à-dire que l'étranger n'est pas forcément non plus bien vu, parce qu'on le sait, hein, l'Algérie est une terre de passage.
Ces jeunes qui viennent du Sud ne viennent pas d'ailleurs, hein, c'est des Algériens. C'est des Algériens du Sud. Hein. Donc, il y a ce rejet, il y a une espèce de rejet de classe. Hein. Ceux qui sont de Mostaganem sont les gens du Nord. Il y a un problème entre quand même les gens du Sud, du Nord. Bon, on ne connaît pas bien le Sud de l'Algérie. En plus de ça, effectivement, même si je ne montre pas des gens qui traversent la frontière sud de l'Algérie pour venir vers le nord, vers l'Europe, je montre quand même que ces jeunes qui sont du Sahara, qui sont bruns, certains sont noirs, sont des Algériens, mais ils ne sont pas assimilés, quoi. Le problème reste le même. Il y a une espèce de forme de racisme. D'ailleurs, j'en parle dans un téléfilm que j'ai tourné juste avant, hein, il y a deux ans, et qui a été diffusé sur Arte. J'ai tourné un téléfilm pour Arte et qui s'appelait Taman Rasset, où je parlais justement de ces gens d'Afrique subsaharienne qui traversent l'Algérie pour aller vers le Maroc, et comment ça se passe au cours de leur passage par Taman Rasset pour aller vers le Maroc, le racisme, le racket, le rejet, etc. Donc il y a un problème de toutes les manières. L'émigré est toujours rejeté par le pays qui est censé être le pays d'accueil ou de transit.
Vous avez de la chance d'avoir fait l'école. C'est drôle de vous voir ensemble. Les ploucs et les fils à papa. Mais ton papa, il n'a pas pu avoir un visa pour toi. Peut-être qu'il fallait envoyer la copine au consulat. La belle copine.
Bon, à genoux, là.
Ils viennent de différentes classes, vous l'avez dit tout à l'heure. Notamment, il y a une phrase qu'on relève quand ils sont dans cette barque. Ça, c'est le deuxième temps du film. Ils finissent par partir, alors avec tout un tas de précautions. Enfin, là, il y a un petit côté suspense, hein, quand même, que même si vous dites que vous ne faites pas trop de fioritures, vous en faites quand même un peu, hein, cinématographique. Et il y a une phrase qui dit, voilà, il y a les ploucs et les fils à papa sur le même bateau. C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que... Bah, les candidats au départ sont à prendre dans toutes les classes.
Carrément, parce que moi je pense, de ce que je connais de ce phénomène, c'est que les causes sont liées pas spécialement à ce qu'on appellerait la misère. Hein. Les causes sont liées, la mal-vie, plutôt la mal-vie, le manque de perspective, et cette mal-vie touche des catégories très larges de la population algérienne, c'est-à-dire que quelqu'un, un jeune qui peut avoir son travail, etc., va vivre mal sa vie de jeune, ne pas pouvoir se marier, avoir un problème de logement, avoir un problème de loisirs, avoir un problème culturel, etc. Et donc cette mal-vie qui est aussi liée à la circulation des images. Actuellement, les images circulent très rapidement. Les immeubles, les cités en Algérie sont hérissées d'antennes paraboliques. Donc on voit tout ce qui se passe dans le monde. On vit une vie virtuelle, et quand on s'aperçoit qu'on est dans un pays où il ne se passe rien, c'est la monotonie, en même temps on ne sait pas très bien où on va, on se demande quel est le projet de société, et donc la réflexion c'est: est-ce que maintenant je vais passer ma vie à la mosquée, est-ce que je vais faire quoi, est-ce que je vais devenir alcoolique, donc il y a eu un problème de mal-vie qui touche toutes ces catégories. C'est pour ça que j'ai voulu que sur cette barque, il y ait des antagonismes et des gens qui sont différents les uns des autres. Effectivement, les fils à papa. Les fils à papa, c'est un peu péjoratif parce que ça, c'est un des personnages qui les traite de fils à papa. Disons que c'est des étudiants qui sont réduits à traverser de cette manière.
Allez, on y va.
Non, on doit attendre.
Pourquoi ?
Un appel. Il y a des copains qui vont nous avertir juste avant la nuit. Comme ça, les gardes-côtes, on les évitera.
Bon, on reste tranquille, hein. Allez, reculez. Reculez !
Alors, on peut en parler, hein, de ce personnage, parce que la plus grosse partie du film, c'est quand même ce qui se passe dans les eaux, entre l'Algérie et l'Espagne. Donc, il y a ce personnage qui n'est pas invité au départ, qui s'impose. Et c'est un personnage un peu trouble, qui vient aussi de l'histoire algérienne. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, si on peut dévoiler un peu son identité ou pas.
Pas trop, c'est vrai.
Mais en fait, il ajoute une angoisse supplémentaire. Il y a déjà cette angoisse de la traversée, avec effectivement le froid, le climat, la nuit... le fait de pas trop savoir où ils vont, même s'ils ont un GPS, et ainsi de suite. Et vous avez mis en plus ce personnage vraiment très trouble. Ça, c'était important pour le scénario, de prendre ce personnage.
Pour moi, c'était important parce que c'était, ce personnage allait constituer une continuité de l'atmosphère qui règne peut-être en Algérie, avec des gens qui dominent, des gens qui sont hargneux, des gens qui sont méprisants. Hein. Il y a un terme qui est utilisé dans le film, c'est la hogra. Il y a la harga. Harga, c'est brûler, partir. Et la hogra, c'est le mépris. C'est comment quelqu'un qui a la force, qui a la puissance avec lui, peut mépriser les autres. Et ça fait partie aussi d'une des causes de départ, d'une des causes un peu de la démission de ces jeunes par rapport à un pays. Quand vous allez en Algérie, on vous parle souvent de la hogra. La hogra, c'est le flic qui peut vous tabasser comme ça. C'est le mépris. Hein. Je crois que le terme exact, c'est le mépris. Donc, moi, j'ai fait en sorte que cette hogra existe aussi sur la barque et nous montre un peu une société algérienne qui continue à se chercher, qui continue à chercher des valeurs nouvelles. Nous sommes dans une société où les jeunes aspirent à la démocratie, aspirent à vivre bien dans un pays qui a une manne pétrolière, dans un pays riche. L'Algérie n'est pas le Mali, n'est pas le Niger, c'est un pays riche, c'est un pays... avec des paysages splendides, avec un sud incroyable, etc., où il y a beaucoup de choses à faire. Et pour moi, ces jeunes qui partent ne sont pas des jeunes qui détestent leur pays. Ce sont des jeunes qui, dès que s'offre à eux l'occasion d'aimer le pays, ils l'aiment, mais ils n'aiment pas le système qui les oppresse, qui leur permet pas de s'épanouir. Voilà. Actuellement, nous avons en Algérie une équipe de football qui fait des belles choses au niveau international. Et brusquement, sans qu'il y ait de directive ni rien, il y a un petit esprit, un esprit comme ça nationaliste, une fierté qui remonte. Alors, bon, bien sûr, certains vont se servir de cette fierté pour dire que tout va très bien, que nous sommes très forts, etc. Mais on ne peut pas enlever l'idée que si on donnait la possibilité de s'exprimer, de faire des choses, et si on aidait ces jeunes, ben, le départ comme ça, ce suicide s'arrêterait.
Dès que tu arrives, tu nous appelles.
D'accord.
Dès que tu arrives, promis.
T'inquiète, papa.
Je ne m'inquiète pas. Je te fais confiance. Cette fois-ci, je sais que tu réussiras. Rien ne t'arrêtera. Et si j'étais jeune comme toi, eh bien, j'aurais fait la même chose. Dire qu'avant, je vivais de l'autre côté. Et je suis revenu. Qu'est-ce que le bras?
On peut dire aussi que ces jeunes sont encouragés par leurs parents, des parents qui ont vécu l'histoire algérienne, donc sont peut-être la libération, on peut l'imaginer, qui ont vécu la guerre civile, enfin voilà, qui ont vécu les horreurs, mais on peut imaginer aussi que les jeunes l'ont vécu, vu leur âge. Donc il y a quand même cet encouragement, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de honteux.
Non, c'est pas quelque chose de honteux. Ce qui est honteux, c'est d'en être arrivé là, c'est d'être dans une situation où des jeunes partent de cette manière. Mais quand moi je raconte cette histoire et je parle de ces haragas qui partent en barque, ça n'exclut pas l'existence de jeunes qui partent par des moyens normaux, qui partent, enfin normaux entre guillemets, puisqu'il y a, des trafics de visas, il y a toute une série de manières de partir en s'inscrivant dans des écoles, en des stages, on revient plus, etc. Donc il y a un phénomène de départ, il y a un phénomène de circulation. Et ce phénomène de circulation est là, il existe. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que par rapport à la situation qui est faite à une partie de l'humanité actuellement, c'est-à-dire, bon, il y a deux mondes qui se côtoient. On nous raconte qu'aujourd'hui, il y a un village planétaire. Bon, c'est pas vrai. Mais ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie du monde, et ça, c'est aussi un message du film, où par exemple, les jeunes, comme on nous l'a appris quand on était jeunes, en nous disant que les voyages forment la jeunesse, il y a une partie du monde où des jeunes, après avoir travaillé ou même qui ne travaillent pas, prennent leur sac à dos et circulent. Ils circulent, ils partent dans d'autres pays, pas spécialement pour s'installer dans ces autres pays, mais pour voir d'autres horizons, revenir chez eux, etc. Aujourd'hui, il y a aussi cet âge de l'enfermement. C'est-à-dire que je sais qu'en Algérie, des jeunes me disent « Mais pourquoi nous, on ne sortirait pas ? Pourquoi on n'irait pas, je ne sais pas, en Suède ? On revient. On revient. Pourquoi on est classé comme des gens qui ne peuvent pas sortir ? » Donc, il y a ce problème d'absence de visa. Il y a ce problème aussi d'une organisation répressive qui s'est mise en place entre les gouvernements du nord de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée, qui fait que tous les gens qui vivent dans le sud sont classés dans la catégorie émigrés potentiels. Eh ben c'est pas vrai. C'est-à-dire que peut-être que si on ouvrait les portes, il y aurait des gens qui s'installeraient, des gens qui repartiraient. Surtout que, bon, quand les gens s'installent, ça a l'air d'intéresser certains qui les exploitent. Hein. Mais d'autres repartiraient. Donc il y a une espèce d'embrouille qui fait que ça accentue la rage et ça accentue ce désir de sortir à tout prix. Et vraiment, dans mon enquête à Mostaganem, dans cette ville côtière, avant de tourner, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit qu'ils sont partis en barque et qu'ils sont revenus, qui voulaient juste aller un peu s'éclater, voir. Bon, pour eux, l'Espagne n'est pas loin, ils veulent voir l'Espagne et revenir.
C'est le retour, le tabassage, tribunal, la prison, et après, la vie à la camp, dans un pays à la camp. S'il te plaît, Imane, parle-lui, s'il te plaît.
Merzak Alouache, donc vous êtes réalisateur depuis longtemps, vous avez fait une partie de vos études en France, vous l'avez dit, vous vivez ici en France. Vous avez posé un regard sur l'Algérie, avec, c'est le cas avec ces brûleurs, les Haragas. Vous l'avez fait aussi avec L'Autre Monde, avec l'histoire de cette femme qui retourne en Algérie. Est-ce que c'est plus simple pour vous d'avoir un regard sur la société algérienne à partir du moment où vous n'habitez plus en Algérie ? C'est-à-dire de percevoir les choses, mais aussi de les dire.
Peut-être, oui, oui. Je pense que quand... D'ailleurs, en vivant en France, j'ai plus le même regard sur la France que quand j'étais en Algérie, quoi. Parce que chaque fois que je venais en France, je découvrais la France. C'est normal, quand on est loin d'un pays, on découvre les choses d'une autre manière. Mais là, effectivement, c'est-à-dire que moi, ce que je suis en train d'attendre du cinéma algérien, c'est qu'ils puissent surmonter ces difficultés, qui sont des difficultés de production, des difficultés de scénario, d'existence d'une nouvelle génération, d'une génération qui représente un peu ces jeunes, qui représente ce désarroi, etc. Alors effectivement, moi je vis en France et j'essaye donc de tourner en Algérie. Et chaque fois que je vais tourner en Algérie, je sens plus de difficultés à tourner que de tourner un film en France, bien sûr. Mais je le fais quand même. Et je me trouve dans une espèce de paradoxe où je vois que au niveau des cinéastes locaux, il y a comme ça un retrait par rapport à mon travail. Alors, parfois, j'entends dire que moi, je tourne ce genre de film pour plaire aux Français, qu'en fait, il faut laver le linge sale en famille, qu'il ne faut pas parler. Non, je ne suis pas d'accord, moi, parce qu'aujourd'hui, il y a un échange d'images, il y a à travers Internet des images qui circulent et qui sont maintenant incensurables. On ne peut plus censurer les gens. Mais c'est vrai que peut-être que si j'étais à l'intérieur, dans le pays, peut-être que j'aurais une pression plus forte sur mes épaules pour, en tout cas quand j'écris un scénario, pour me lâcher complètement. Et là, je me lâche complètement et je me dis, bon, ben, si on m'empêche de faire ça, ben, je referai autre chose et j'essaierai d'en parler. Moi, je peux parler de l'Algérie en étant n'importe où, quoi. Même en tournant un film en France. Quand j'ai tourné Chouchou en France, il est question d'un maghrébin qui vient, qui se déguise, qui se travestit, etc. Mais je parle aussi déjà du problème de l'émigration et de l'émigration clandestine, puisqu'il est clandestin.
Eh bien, merci, Merzak Alouache. Thank you.